Mais si, si quelqu'un tombe gravement malade, est-ce que c'est un phénomène purement physique ou est-ce que c'est une des difficultés dans sa vie spirituelle?
Ça dépend de la personne. Si c'est quelqu'un qui fait le yoga, c'est de toute évidence une difficulté de sa vie spirituelle. Si c'est un être qui ne s'occupe pas du tout du yoga et qui vit la vie ordinaire de la façon la plus ordinaire, c'est un accident ordinaire. Ça dépend absolument de la personne. Les phénomènes extérieurs peuvent être différents, mais les causes intérieures sont tout à fait différentes. Les phénomènes extérieurs peuvent être similaires, mais les causes intérieures sont absolument différentes. Il n'y a pas deux maladies semblables, quoi qu'on mette des étiquettes sur les maladies et qu'on essaye de les grouper. Mais en fait, chacun est malade à sa manière. Et sa manière dépend de ce qu'il est, de son état de conscience et de la vie qu'il mène. Nous avons dit plusieurs fois que les maladies sont toujours le résultat d'une rupture d'équilibre. Mais cette rupture d'équilibre peut se produire dans des états d'être tout à fait différents. Pour l'homme ordinaire dont la conscience est centralisée dans la vie physique extérieure, c'est une rupture d'équilibre du fonctionnement de ces différents organes. Mais dès qu'il y a derrière cette vie purement superficielle une vie intérieure qui s'élabore, les causes des maladies deviennent toujours des l'expression d'une déséquilibre entre les différentes parties de l'être et entre le progrès ou l'effort intérieur et les résistances ou les conditions extérieures de sa vie, de son corps. Même au point de vue extérieur ordinaire, il a été reconnu depuis très longtemps que c'est un fléchissement de la vitalité provenant de causes morales immédiates qui est toujours à l'origine d'une maladie. Quand on est dans un état d'équilibre normal et qu'on vit justement dans une harmonie physique normale, le corps a une capacité de résistance, il a en lui une atmosphère suffisante pour résister aux maladies, aux maladies qui sont appelées contagieuses. En fait, toutes les vibrations sont contagieuses. Mais enfin, il y a certaines maladies qui sont considérées comme des maladies spécialement contagieuses. Eh bien, un homme qui est dans un état de, même au point de vue purement extérieur, d'harmonie, de fonctionnement de ses organes et d'un équilibre moral suffisant, il a en même temps la résistance suffisante pour que cette contagion ne le touche pas. Mais si pour une raison quelconque il est déséquilibré ou affaibli par une dépression, un mécontentement, des difficultés morales, alors ça diminue la résistance normale de son corps et il est ouvert à la... ou des fatigues exagérées, par exemple. Ça diminue la résistance de son corps et il est ouvert à la maladie. Mais si on pense à quelqu'un qui fait le yoga, alors c'est tout à fait différent. Dans le sens que les causes de déséquilibre deviennent d'une nature différente et que la maladie représente généralement l'expression d'une difficulté intérieure à surmonter. Alors chacun doit trouver pour lui-même pourquoi il est malade. Au point de vue ordinaire, pour les cas les plus nombreux, c'est généralement la peur qui peut être une peur mentale, qui peut être une peur vitale et qui est presque toujours une peur physique, une peur des cellules. C'est la peur qui ouvre la porte à toutes les contagions. La peur mentale, tous les gens qui ont un peu de... contrôle sur eux-mêmes et de dignité humaine, on peut l'éliminer. La peur vitale est plus subtile et demande un plus grand contrôle. Quant à la peur physique, pour ça, il faut un véritable yoga pour le surmonter. Parce que les cellules du corps ont peur de tout ce qui est désagréable, pénible. Dès qu'il y a un malaise, même insignifiant, les cellules du corps s'inquiètent. Elles n'aiment pas être mal à l'aise. Et alors là, pour surmonter ça, il faut le contrôle d'une volonté consciente. C'est généralement ça qui ouvre la porte aux maladies. Et je ne parle pas des deux premières peurs qui, comme je le dis, sont des choses... que tout être humain qui veut être humain, n'est-ce pas, dans le sens le plus noble du mot, doit surmonter parce que c'est une lâcheté. Mais la peur physique, c'est plus difficile à surmonter. Et sans elle, même les attaques les plus violentes pourraient être repoussées. si on a un minimum de contrôle, on peut diminuer les effets. Mais si on n'a aucun contrôle, c'est cette espèce de frémissement de la peur physique, matérielle, des cellules du corps qui aggrave toutes les maladies. Il y a des gens qui spontanément n'ont pas peur, même dans leur corps, qui ont suffisamment d'équilibre vital en eux pour ne pas avoir peur, pas craindre, et qui ont une harmonie naturelle du rythme de leur vie physique qui fait qu'ils réduisent la maladie spontanément au minimum. Il y en a d'autres, au contraire, c'est toujours, ça devient toujours aussi mauvais que ça peut être. Et il y a toutes les chaînes. Et on peut voir ça très facilement. Il y a des gens, ça devient toujours aussi mauvais et aussi sérieux que ça peut être, qu'il est permis que ça soit, jusqu'à parfois la catastrophe. Il y en a d'autres, c'est tout le contraire. Eh bien, ça dépend de cette sorte de rythme du mouvement de la vie en eux qui est suffisamment harmonieux pour résister aux attaques extérieures de la maladie, ou bien qui n'existe pas, ou qui existe, n'existe pas suffisamment, et qui est remplacé par ce frémissement de la crainte, cette espèce d'angoisse instinctive qui fait que le moindre contact désagréable se transforme en une chose douloureuse et mauvaise. Il y a toute l'échelle. Depuis celui qui peut passer à travers les contagions et les épidémies les plus sévères sans jamais rien attraper, et celui qui, à la moindre occasion, tombe malade. Il y a toutes les chaînes des possibilités. Alors, à ce point de vue-là, ça dépend naturellement toujours de la constitution de chacun. Et dès qu'on veut faire un effort vers le progrès, ça dépend naturellement de la maîtrise que l'on a obtenue sur soi. Jusqu'au moment où le corps devient un instrument docile de la volonté supérieure et qu'on peut obtenir de lui une résistance normale à toutes les attaques. Et quand on peut éliminer la peur, alors on est à peu près en sécurité. Mais si vous voulez ne pas des exemples comme les épidémies ou soi-disant épidémies comme celles qui sévissent en ce moment, 99% ça vient de la peur. une peur alors qui devient même une peur mentale dans tout ce qu'elle a de plus sordide. Cultivée par des articles de journaux, des bavardages inutiles, tout ce qui s'ensuit.
Mais l'emploi du médicament dans un temps où elle n'est pas tout à fait inconsciente. Et même en tirant la grâce divine, on voit qu'on a besoin d'un peu de médicaments. Et si on donne un peu de médicaments, ça fait un bon effet. Est-ce que cela veut dire que c'est pour le corps seulement ou c'est dans le mental ou le vital?
Dans la majorité des cas, l'emploi des médicaments quand il est fait dans une mesure raisonnable, c'est-à-dire que quand on ne s'empoisonne pas en prenant des médicaments, eh bien, dans la majorité des cas, c'est simplement pour aider le corps à avoir confiance. Le corps, c'est le corps qui guérit. C'est le corps qui, quand il veut guérir, il guérit. Et tout c'est une chose tout à fait reconnue maintenant. Même les docteurs les plus traditionnalistes, ils vous disent, oui, nos médecines aident, mais ce n'est pas les médecines qui guérissent, c'est le corps qui décide de guérir. Bien. Alors, quand on dit au corps, prends ça, il se dit, maintenant, je vais guérir. Et comme il se dit, je vais guérir, eh bien, il guérit. Dans presque tous les cas, il y a vraiment des choses qui aident un peu, pourvu que ce soit dans une mesure raisonnable. Si ce n'est plus dans une mesure raisonnable, alors vous êtes sûr de vous détraquer complètement. Vous guérissez une chose, mais vous en attrapez une autre qui est pire, généralement. Mais enfin, une petite aide comme ça, un petit quelque chose, n'est-ce pas, qui vous donne à votre corps maintenant. Maintenant, ça va aller bien. Maintenant, j'ai pris ça, ça va aller bien. Alors, ça l'aide beaucoup et il décide de guérir, il guérit. Là aussi, il y a toute l'échelle des possibilités. Depuis celui qui est dans un état si parfait de contrôle intérieur qu'il pourrait prendre un poison sans que ça l'empoisonne, jusqu'à celui qui a besoin de certaines drogues spéciales pour pouvoir obtenir de son corps le mouvement nécessaire pour guérir. Il y a toute l'échelle possible de la maîtrise totale, suprême, jusqu'à l'esclavage total aussi, ou à tous les adjuvants extérieurs, tout ce qui vient de ce que vous absorbez du dehors. Un esclavage à ça et une libération parfaite. Il y a toute l'échelle. Alors tout est possible. C'est comme un grand clavier très complexe et très complet sur lequel on peut jouer. Et le corps est l'instrument.
Mais est-ce que par un effort mental, par exemple, de prendre la résolution de ne pas prendre des médicaments quand on est malade, on peut arriver à faire comprendre le corps?
Ça ne suffit pas. Une résolution mentale ne suffit pas. Non. Il y a dans votre corps des réactions subtiles qui n'obéissent pas à la résolution mentale. Ça ne suffit pas. Il faut quelque chose d'autre. Il faut toucher à d'autres régions. Il faut un pouvoir supérieur au pouvoir mental. Et à ce point de vue-là, tout ce qui est dans le mental est toujours sujet à discussion intérieure. Tu prends une résolution, mais tu es sûr qu'il y aura toujours quelque chose qui viendra et qui pas combattra ouvertement cette résolution, mais mettra en doute son efficacité. Et il suffit, n'est-ce pas, d'être l'objet du moindre doute pour que ta résolution perde la moitié de son effet. Si en même temps que tu dis « je veux », il y a quelque part, en sourdine là, derrière, dans l'arrière-plan, quelque chose qui se demande quel sera le résultat. Ça suffit pour tout démolir. Ce jeu du fonctionnement mental est extrêmement subtil et aucun moyen humain ordinaire ne peut arriver à le contrôler parfaitement. Par exemple, c'est une chose tout à fait reconnue chez les gens qui pratiquent le yoga et qui veulent maîtriser leur corps. Si, par un travail assidu, un travail yogique assidu, ils sont arrivés à maîtriser quelque chose en eux, par exemple une faiblesse particulière du corps et une ouverture à un certain déséquilibre. S'ils y sont arrivés, et qu'il y a le résultat de, par exemple, l'absence de ce déséquilibre pendant fort longtemps, des années. Eh bien, si un jour, à un moment donné, tout d'un coup, leur pensée, n'est-ce pas, leur cerveau est traversé par la pensée, ah, maintenant c'est fait, la minute d'après ça revient. Ça suffit. Parce que ça prouve qu'on est entré en rapport avec les vibrations de cette chose sur un plan où on est vulnérable, le plan de la pensée, et qu'il y a une raison quelconque, n'est-ce pas, dans le jeu des forces, qui fait qu'on est ouvert. Et ça revient. Ça, c'est une chose très connue dans le yoga. Le seul fait de constater la victoire que l'on a remportée, de la constater mentalement, n'est-ce pas, la pensée, ça suffit à démolir tous les faits du yoga qui peut avoir existé pendant des années. C'est, n'est-ce pas, un silence mental suffisant pour empêcher toutes les vibrations du dehors de s'introduire est indispensable. Eh bien, ça, c'est une chose tellement difficile à obtenir qu'il faut vraiment avoir passé, pas de ce que Sri Aurobindo appelle la sphère inférieure à une sphère supérieure, exclusivement spirituelle, pour que ça ne se produise pas. Non, ce n'est pas dans le domaine mental qu'on remporte les victoires. C'est impossible. C'est ouvert à toutes les influences, tous les courants contradictoires, toutes les constructions que l'on fait portent avec elles-mêmes leurs contradictions. Qu'on peut tâcher de la soumettre ou de, n'est-ce pas, de la rendre aussi offensive que possible, mais elle existe, elle est là. Et à la moindre faiblesse ou manque de vigilance ou inadvertance, ça entre et ça démolit tout le travail. Mentalement, on obtient très peu. Et c'est toujours mélangé comme résultat. C'est autre chose. Il faut passer du mental au domaine de la foi ou d'une conscience supérieure pour pouvoir agir avec sécurité. Il est de toute évidence que un des moyens les plus puissants sur le corps, c'est la foi. Les gens qui ont un cœur simple, pas une pensée très compliquée, des gens simples, n'est-ce pas, qui n'ont pas un développement mental très très grands, très compliqués, mais qui ont une foi très intense, ils ont beaucoup d'effets sur leur corps. Beaucoup. C'est pour ça qu'on est étonné parfois, voilà un homme qui a une grande réalisation, qui est un être exceptionnel, et il est l'esclave de toutes petites choses physiques. Tandis que celui-là, mon Dieu, qui est un homme tout à fait simple, qui a l'air fruste, mais qui a une grande foi, passe à travers les difficultés et les obstacles comme un conquérant. Je ne dis pas qu'un homme de culture supérieure ne peut pas avoir la foi, mais c'est plus difficile parce qu'il y a toujours cet élément-là qui contredit, qui discute, qui cherche à comprendre, qui est difficile à convaincre, qui veut des preuves. La foi est moins pure. Il faut alors passer à un degré supérieur dans la spirale de l'évolution et passer du mental au spirituel. Alors là, naturellement, la foi prend une qualité d'ordre très supérieur. Mais je veux dire dans la vie quotidienne et la vie ordinaire, un homme très simple qui a une foi très ardente, eh bien peut avoir une maîtrise de son corps sans que ce soit une maîtrise, simplement c'est un mouvement spontané. Un contrôle sur son corps beaucoup plus grand que quelqu'un qui est à un développement très supérieur.
Une question, petite question personnelle, je vous pose. Une maladie inguérissable, maladie organique, c'est guéri par votre grâce, mais une maladie tout à fait fonctionnelle ne guérit pas. Comment se fait-il dans le même corps? C'est la manque de réceptivité ou... Une maladie inguérissable, c'est guéri, mais on ne sait pas si on était conscient.
Ça, c'est une chose tellement personnelle, individuelle, c'est impossible à répondre. Comme j'ai dit, pour chacun, le cas est absolument différent. On ne peut pas donner une explication de ces choses-là. Sans entrer dans le détail du fonctionnement, pour chacun le cas est différent. Et pour chaque chose. Pour chaque événement, il y a autant d'explications qui peuvent être données qu'il y a de plans de conscience. D'une façon, enfin simpliste, on peut dire il y a une explication physique, il y a une explication vitale, il y a une explication mentale, il y a une explication spirituelle, il y a etc. Et il y a des, toute une gradation innombrable d'explications que vous pouvez donner pour le même phénomène. Aucune n'est tout à fait vraie, toutes possèdent un élément de vérité. Et finalement, si vous voulez entrer dans le domaine des explications, si vous prenez une chose et que vous la suivez, vous êtes toujours obligé de l'expliquer par une autre, et vous pouvez faire indéfiniment le tour du monde et expliquer une chose par l'autre sans jamais arriver au bout de votre explication. Au fond, quand on voit ça dans sa totalité, dans son essence, la chose la plus sage qu'on puisse dire, c'est comme ça parce que c'est comme ça.